Bonjour chers auditeurs, je suis heureux de vous retrouver en ce dimanche sur lequel nous allons parler de thèmes d'une très grande importance. Mais avant d'aborder le cœur de cette émission, je voudrais que le docteur Philippe Piloquet, qui est en ligne, nous fasse un petit point d'actualité médicale. Voilà.
Bonjour Monsieur Tassot. Oui, bonjour Monsieur Tassot. Bonjour à vos invités, à tous les auditeurs. Quelques éléments, oui, quelques nouveautés concernant donc le domaine de la santé. Et je voudrais commencer simplement par le congrès d'ophtalmologie de 2026, qui a beaucoup insisté sur la freination de la myopie. Alors c'est un problème qui touche beaucoup de monde, puisqu'en France la prévalence est de l'ordre de 40%. Il faut noter aussi qu'en Asie de l'Est, ça peut aller jusqu'à 80% de personnes atteintes de myopie. Et c'est un problème qui augmente en pourcentage, et je tenais à y faire mention pour une simple raison, c'est que l'enfant, bien sûr, la myopie apparaît chez l'enfant, en bas âge quelquefois, et le diagnostic doit être fait le plus précocement possible, puisqu'il y a maintenant un certain nombre de traitements pour freiner cette myopie. Et donc, ça intéresse beaucoup de parents, évidemment. Alors, les causes, je ne veux pas m'y arrêter trop. Vous savez que c'est la lumière artificielle est une cause de myopie. La distance, en particulier de la lecture, avec l'enfant qui lit beaucoup trop près. De même, l'observation des écrans est également trop proche. La lecture mal éclairée. Et puis, il y a un domaine aussi que l'on connaît bien, c'est l'hérédité. Des parents myopes vont malheureusement avoir souvent des enfants atteints de myopie. Les conséquences sont lourdes, puisque c'est un risque progressivement à l'âge adulte de glaucome, de décollement de rétine et autres pathologies. Donc, il faut absolument tenir compte de cette myopie et la traiter. Alors, il y a des mesures simples hein, d'hygiène, comme passer au moins 2 heures par jour à l'extérieur, lire avec une distance minimale de 30 cm. Et malgré tout ça, la myopie se développe le plus souvent. Et heureusement, il y a maintenant ce qu'on appelle des verres freinateurs. Alors, ces verres freinateurs, il y a 30 ans ou 20 ans, on utilisait simplement des lunettes avec des verres qui corrigeaient la myopie, puisque je vous rappelle que la myopie correspond à un globe oculaire qui est trop long. Et donc, le plan focal ne se fait plus au niveau de la rétine centrale. Et ce globe oculaire trop long continue de croître. Pour arrêter sa croissance et donc limiter la myopie, on utilise des verres qui présentent en périphérie des micro-lentilles. Et ces micro-lentilles vont provoquer un défocus de cette rétine périphérique et donc indiquer à l'œil qu'il faut arrêter sa croissance. On va donc avoir une freination, une limitation de la croissance du globe oculaire, limitant ainsi la myopie, ce qui est bien sûr essentiel pour l'enfant et le jeune adulte. La myopie se développe en particulier entre 7 et 12 ans, donc vous voyez qu'il faut agir le plus tôt possible, et ça je l'indique pour les parents qui ont des enfants en bas âge, tout doute sur la vue d'un enfant doit être bien sûr contrôlé. C'était le premier sujet. Le deuxième sujet concerne une notion que l'on connaît, bien sûr, la contraception. Une étude a été réalisée en 2023 et qui a été publiée récemment. Le sujet, c'est « Contexte des sexualités en France », qui a été publiée par le Bulletin épidémiologique hebdomadaire, qui est une revue scientifique de Santé publique France. Alors, c'est un travail important donc, de 2023 sur plus de 31 000 femmes qui concernaient donc, un certain nombre de notions comme, entre autres, la contraception et le mode de vie. Alors, dans cette étude, on peut noter plusieurs éléments importants. Le plus important ou significatif est la baisse de l'utilisation des pilules estroprogestatives, puisqu'on est passé Dans les années 2000, à plus de 56% d'utilisation pour les femmes en âge de procréer, à actuellement, enfin en 2023, à 26%. Vous voyez que c'est une chute de 50% pratiquement, un peu plus d'ailleurs, de l'utilisation de cette pilule estroprogestative.
Ah oui, c'est un écart énorme. Mais alors, est-ce qu'on connaît la cause? Qu'est-ce qui fait que...
Alors, oui, alors les causes sont multiples. En particulier, il y a cette constatation qui a été publiée parce que la médecine le savait depuis longtemps, mais dans les années 2010, on a noté qu'il y avait des risques thromboemboliques, en particulier pour les contraceptifs de troisième et quatrième génération. Alors, risque thromboembolique, thrombo, c'est-à-dire fabrication d'un thrombus, d'un caillot, et ce petit caillot dans les vaisseaux, dans les veines en particulier, va se détacher et va migrer au niveau du cœur, au niveau des poumons ou au niveau cérébral, entraînant donc une embolie pulmonaire, un infarctus éventuellement, et malheureusement des accidents vasculaires cérébraux. Donc cette notion connue par le grand public a entraîné aussitôt une réaction que l'on peut comprendre, hein, entraînant donc la baisse de cette utilisation des pilules estroprogestatives. Alors il fallait bien utiliser malgré tout un mode contraceptif et donc ces femmes se sont tournées vers d'autres moyens comme par exemple bien sûr les dispositifs intra-utérins, donc le stérilet. Alors le stérilet, l'augmentation a augmenté pratiquement, son utilisation a augmenté de l'ordre de 10%. L'absence de contraception a également augmenté entre les années 2000 et 2023. On a gagné à peu près 5% sans contraception, le préservatif et puis les méthodes naturelles qui restent globalement à peu près stables. Il y a donc ce risque important, enfin important, oui, qu'il faut considérer parce qu'il est grave. Il y a également d'autres phénomènes comme le rejet de la charge contraceptive vers le conjoint. Un certain nombre de femmes se sont dit, pourquoi moi toute seule? Donc le conjoint doit prendre en charge cette limitation des naissances, cette contraception. Et puis il y a un phénomène qui est également un peu particulier, c'est la diminution de la fréquence des rapports sexuels chez les jeunes, pour les jeunes générations. Il y a une baisse notable de l'ordre de 20%, ce qui entraîne un mode de vie un peu différent. Et une baisse donc de l'utilisation de ces pilules estroprogestatives. Donc vous voyez que c'est un renversement un petit peu de ce qui existait auparavant. La contraception reste bien sûr importante et très largement majoritaire, mais malgré tout, on change un petit peu de mode d'utilisation. Alors il faut savoir évidemment que les dispositifs intra-utérins, donc les stérilets, sont différents quand même de l'utilisation de la pilule, puisqu'ils n'entraînent, ils ne gênent pas la fécondation, mais par contre, ils vont entraîner un rejet de cet embryon qui arrive dans la cavité utérine pour nider, et la nidation sera impossible à cause de ce dispositif intra-utérin. Donc le fonctionnement est bien sûr différent par rapport à une pilule. Le troisième sujet dont je voulais vous parler très rapidement, c'est un article qui est paru dans Nature Communication. C'est l'utilisation ou la gamétogénèse in vitro, c'est-à-dire l'utilisation de cellules différenciées pour fabriquer des gamètes. Alors c'est un sujet qui est courant, qui est régulier dans les publications. Des chercheurs donc ont annoncé dans une publication récente, ont annoncé avoir créé un ovule à partir de cellules de la peau. Alors c'est un problème qui est récurrent. Vous le savez, pour une procréation, pour la procréation, il faut deux cellules haploïdes, donc n'ayant que 23 chromosomes, ces fameux gamètes, l'ovule et le spermatozoïde. Ces deux cellules proviennent de cellules germinales que l'on trouve dans les gonades, spermatozoïdes et ovaires. Et une chose qui m'a toujours surpris, ces cellules germinales sont différenciées dans l'embryon au bout de 3 semaines pratiquement de vie embryonnaire. L'embryon est tout petit, sans aucune forme évidemment, et il va spécialement différencier des cellules qu'il va placer dans les futures gonades, dans les futurs tissus qui donneront les gonades. C'est vous dire l'importance de ces cellules et l'importance de la procréation. Tous les gamètes viendront de ces cellules germinales. Alors, le problème, c'est que ces gamètes n'ont bien sûr que 23 chromosomes. Des cellules de la peau ont, vous en doutez, 46 chromosomes, sont des cellules somatiques classiques. Il faut donc utiliser des cellules différenciées, ces cellules de la peau, et les contraindre à se diviser et à éliminer la moitié de leurs chromosomes. Alors pour ce faire, on va prendre le noyau de ces cellules d'une cellule de la peau, ce qu'on appelle le fibroblaste, qu'on va mettre dans un ovule, ovule qui a été donné évidemment, et cet ovule, on va le contraindre à se diviser pour obtenir 2 cellules, une cellule qui sera éliminée et une cellule ne présentant que 23 chromosomes. Ces 23 chromosomes ont pour origine, bien sûr, si vous m'avez suivi, les cellules de la peau, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour ce genre de phénomène. Et donc, si l'on élimine la moitié des chromosomes de cet ovule, eh bien, on a l'équivalent d'un gamète. Il suffira d'utiliser un spermatozoïde pour féconder cet ovule et obtenir un embryon.
Alors, est-ce qu'on retrouve une cellule totipotente ou est-ce que ça ne va pouvoir que donner de la peau ?
Alors là, l'intérêt, bien sûr, c'est qu'il y a un traitement. Le secret, en fait, de la manip, c'est l'utilisation de l'ovule. Puisque cet ovule est bien sûr un gamète, et on enlève le noyau de cet ovule, le noyau initial, pour le remplacer par le noyau de la cellule de peau. Et donc, il va y avoir une remise, entre guillemets, une remise à zéro de l'ADN contenu dans le noyau de la cellule de peau. Et donc, l'ovule va de nouveau avoir un potentiel de fécondation par l'intermédiaire d'un spermatozoïde. Il s'agit donc d'une cellule qui est embryonnaire. On revient à la phase initiale pour former un zygote. Alors, intérêt de cette technique, que je ne vais pas vous détailler, bon, parce que c'est un petit peu longuet, on va dire. L'objectif est de permettre à des couples qui n'ont pas des gamètes, une femme par exemple qui n'a plus d'ovaires ou un homme qui n'a plus de spermatozoïdes, de réussir à féconder, d'avoir une procréation entre les deux conjoints. En fait, c'est ça l'objectif global. Et vous l'imaginez tout de suite que des personnes homosexuelles vont pouvoir, quand la technique sera opérationnelle, car elle ne l'est pas, hein, on est au début de ce type de manip, on peut imaginer qu'un couple d'homosexuels pourra obtenir, à partir des deux conjoints, pourra obtenir une procréation, un enfant, un embryon, issu de leur propre ADN à l'un et à l'autre. Donc on a toute cette technologie qui est orientée vers les difficultés de procréation de deux personnes, visant donc à faciliter l'obtention d'un embryon. On n'est qu'au tout début, hein, n'oublions pas que le développement n'est pas du tout terminé. Il y a encore beaucoup d'anomalies et bien sûr aucun embryon viable n'est pour l'instant obtenu.
Écoutez, ça fait, par certains côtés, ça fait quand même peur.
Ah, ça fait peur, c'est l'avenir. Hein. Malgré tout, j'ai très peur de l'avenir, parce que entre ce type de procréation, l'ectogenèse, Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver dans le futur, dans le cadre de cette procréation, mais ce sont des choses qu'il faut considérer, dont il faut être au courant.
Oui, bah c'était un des points clés d'ailleurs du meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Écoutez, docteur Filoquet, merci beaucoup pour ce point d'actualité. Et donc, je vous donne rendez-vous pour une future émission. Et nous allons maintenant passer à un sujet, je crois, politiquement très important. Qui est celui de Fatima. Alors je m'adresse dans le studio à ma droite, Olivier Lecomte, qui vient de publier un livre, Qui cherches-tu? Et ce livre a été préfacé par le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Et ce livre, enfin, pose des questions absolument fondamentales sur le sens de la vie politique, sur ce qu'est d'ailleurs le souci de la politique, hein. D'où le titre qui a été donné à cette émission, de l'amour, la paix et la justice dans la France éternelle. Or, la France éternelle, pourquoi la France est-elle éternelle, Olivier Lecomte? Alors, avant d'en venir à ce sujet, je m'adresse à ma gauche à Winfried Bürmeling, qui est le président fondateur de l'UNEC, l'Union des Nations de l'Europe chrétienne, et qui a été un peu l'inspirateur d'un pèlerinage à pied de Fatima à Moscou sur plusieurs années. Qui a été évidemment interrompu d'ailleurs par le Covid. Et ce pèlerinage, évidemment, est en rapport avec le message de Fatima, et le message de Fatima est directement en rapport avec les questions de haute politique que nous allons aborder par la suite. Puisque justement, il est dit quelque part dans ces messages que des nations disparaîtront. Et vous, dans le titre de cette émission, Olivier Lecomte, vous demandez qu'on parle de la France éternelle. Donc, Winfried Bürmeling, justement, pourquoi un tel pèlerinage? Pourquoi
Oui,
cette importance de la donner à la Russie et à Fatima?
Eh bien, ça vient directement de la Sainte Vierge elle-même, qui a parlé à Fatima il y a une centaine d'années maintenant. De la Russie et qu'elle souhaitait qu'elle soit plus proche de son cœur immaculé. Elle voulait même expressément qu'elle soit consacrée par le pape officiellement en union avec tous les évêques à son cœur immaculé. Ça, c'est le départ de ce pèlerinage. Alors, vu la situation aujourd'hui de l'orthodoxie et de l'Église catholique totalement divisée depuis plus de 1000 ans, des laïcs, encadrés par l'UNEC, ont pris l'initiative, en tant que laïcs, de remuer ce problème, c'est-à-dire de jeter une pierre avec nos pieds dans ce désastre de la division de la chrétienté, en dépit du commandement de notre Seigneur: Soyez un comme je suis un avec mon Père. Qu'est-ce que nous en avons fait depuis 1000 ans par rapport à l'autre poumon de la chrétienté qui est l'Est, qui est l'orthodoxie? Alors c'était Monsieur
Là, là,
Bruegel. Oui.
je corrige quand même parce
Oui.
que il y a des églises catholiques orientales qui ont la même liturgie, qui ont tout à fait le même droit à être appelé oriental que les églises orthodoxes.
Les gréco-catholiques, bien sûr. Il y avait des tentatives, hein, de réunion déjà au XVIIe siècle, le Concile de Florence, avec un grand écho à l'Est, mais pas le succès espéré de masse, hein, d'un ralliement de masse à une seule église sous le pape. Maintenant, il y avait Monsieur l'abbé de Villers qui avait dit qu'il faudrait faire un pèlerinage de Fatima à pied jusqu'à Moscou. Le plan n'a pas réussi et nous, il y a maintenant 8 ans, nous avons repris ce plan et c'est M. Bruyel, qui est bien connu à Radio Courtoisie, qui a fait à pied, tout seul, le premier pèlerinage de Fatima à Moscou. Et c'était en 2017-18. Suite à ça, puisqu'il n'a pas pu parler au président de la Russie, ni au patriarche, de cette volonté d'unité, eh bien, on a dit, on va faire ça dans un schéma un peu plus élargi. Avec l'UNEC, on a rassemblé pratiquement 140 pèlerins, pas tous en même temps, mais qui porteraient un grand statut de la Sainte Vierge de Fatima à Moscou et même jusqu'à Kazan, à 800 km plus loin à l'est. Cela a été fait entre 2021 et 2025. L'arrivée sur la place Rouge, c'était le 21 juin l'an dernier. Peut-être un de nos pèlerins est en ligne maintenant, non ? Qui pourrait expliquer où est la statue maintenant ? Parce qu'on voulait remettre donc la statue à une des autorités de la Russie pour leur faire prendre conscience de ce message de Fatima.
Oui, là je ne vois pas Patrick Bonan, donc qui était le marcheur en chef.
D'accord. Alors, depuis un an, elle était dans une famille très pieuse catholique, traditionnaliste d'ailleurs, qui hébergeait notre statue depuis l'an dernier, le juin. Et on priait chaque soir avec les enfants, etc., le chapelet, pour qu'on puisse aboutir à remettre cette statue à qui il faut. Et la Providence a fait vraiment un miracle. Il se trouve que les services du Kremlin ont téléphoné à notre ami Fabien, là-bas.
Fabrice.
Oui, Fabrice, oui, qui a 10 enfants, et lui a communiqué que M. Poutine voulait remettre une médaille aux familles nombreuses, à cette famille particulière. Ça tombait du ciel, comme ça. Et alors Fabrice a dit, mais c'est l'occasion rêvée pour remettre la statue de Fatima qu'on a portée avec beaucoup de peine, donc sur 7500 km à pied, monsieur le président de la Russie. Ça a été fait le 1er juin 2026, donc il y a un mois et demi maintenant. Et depuis, la statue est au Kremlin. Naturellement, ce n'est pas exactement la ferme comme nous on l'aurait aimé, mais la Providence, elle fait comme elle veut. Maintenant, je crois presque, il faut dire, maintenant, c'est à la Sainte Vierge elle-même à continuer ce pèlerinage et faire passer son message.
Mais enfin, c'est quand même un fait qui est important en soi. Hein, pourquoi est-ce au Kremlin et pas au patriarcat,
par exemple ? On a essayé de deux côtés, d'ailleurs avec l'aide de la cathédrale orthodoxe à Paris, à côté de la Tour Eiffel. Hein. Ils nous ont bien été utiles, et avec des traductions en langue ancienne pour que ça passe chez le patriarche et tout. Mais ça n'a pas vraiment fonctionné de ce côté-là, comme vous voyez. La Providence était apparemment dans le coup et voulait que ça sorte carrément, et pourquoi pas. En France aussi, la France, elle a été consacrée à la Sainte Vierge par Louis XIII. Hein. Ce n'était pas l'archevêque de Paris, ni quelqu'un d'autre qui aurait été clair.
Il y a un point qu'on avait souligné, parce qu'on a fait une émission sur l'arrivée du pèlerinage à Kazan l'année dernière. Hein. Et une chose qui avait été mise en avant, c'est que, donc je rappelle, c'est un pèlerinage à pied avec hébergement chez l'habitant dans des circonstances plus ou moins faciles et parfois d'ailleurs très 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 confortables selon l'accueil, etc. Mais il y a une particularité, c'est que dans l'Église orientale, en particulier russe, on vénère des icônes. Et oui. Dans la tradition latine telle qu'elle est vécue en France, Alors, il y a bien sûr des images, mais on s'adresse plus volontiers à des statues. Et il y avait donc une difficulté à ce que ça soit une Vierge pèlerine en statue et pas en icône. Et je me souviens que Patrick Bonnand avait raconté à ce micro que il y a un monastère orthodoxe où le groupe avait été tout à fait bien accueilli. Par contre, la statue n'avait pas été autorisée à entrer dans le monastère, c'est bien ça.
Elle était d'abord installée dans la petite chapelle orthodoxe pour la nuit, hein, pendant que les pèlerins dormaient. Et ils ont contacté quand même leur évêque, leur supérieur, et lui, il était contre qu'elle émerge dans la chapelle. Alors il fallait retirer la statue et la mettre dans la chambre des pèlerins. C'était ça. Mais autrement, bien sûr, c'est quand même l'Est, c'est là, il y avait les grands combats, les iconoclasmes déjà, pour toute image sainte, hein, c'est un gros ancien problème. Déjà depuis le temps des Hébreux qui voulaient pas de statue parce que Dieu est ineffable.
Voilà, il y a une interdiction dans la Bible.
Mais il faut dire que la statue a été très très bien reçue partout, justement parce que c'est rare. Les gens, c'était une certaine attraction et ils étaient ravis de voir cette belle statue. Et comme ils ont donné une médaille à tous ceux qui s'intéressaient un petit peu au passage, partout, ils ont donc eu même un cadeau direct de la statue et de cette image. Alors, je pense quand même que ce douloureux, les pèlerins, ils ont ressenti douloureusement cette séparation entre les deux églises. Ils ont bien vu que la Vierge Marie, elle était, mais vraiment aimée dans ce pays, presque plus, si l'on peut dire, que chez nous. On rentre dans une église, on dit d'abord bonjour à la Vierge Marie, on l'embrasse en icône. Hein. On ne peut vraiment pas dire qu'ils ne connaissent pas la Sainte Vierge. Et avec Bruel, nous on était déjà il y a 8 ans, là, à la Kazanskaya, à Saint-Pétersbourg, et le curé nous a reçus. Il a dit, oui mais des statues... d'enfants, de Fatima, vous croyez à ce que disent les enfants? Vous voyez, ça c'est une réflexion typiquement orthodoxe. Il faut que tout ça vienne d'en haut, par les patriarches, par les autorités, mais pas des enfants. Ça c'est un message très très occidental.
Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de... Parce qu'il y a de saints personnages dans l'église russe, etc. Oui. Mais effectivement... c'est toujours des adultes.
Oui. Des adultes, des moines,
des gens âgés. Oui. Quoi.
Et donc, je crois que c'est aussi très particulier à la Sainte Vierge. Elle s'adresse souvent aux enfants. Hein. Ça, c'est vraiment sa préférence. Et c'est drôle que maintenant, la statue, elle est dans le Kremlin grâce aux enfants. c'est tout à fait typique pour ce genre d'action mariale.
Alors, oui, d'ailleurs, si vous voulez mettre devant la caméra bien l'image qu'on la voit très bien. Voilà,
voilà, ça c'était donc le 21 juin cette année.
1er juin.
Oui, 21 juin c'était l'an dernier. Le 1er juin cette année, où M. Poutine a remis la médaille de famille nombreuse à un Français qui vit à Paris, à Moscou, avec sa femme et ses 10 enfants. Il faut dire que cette séparation qui devient insupportable depuis 1000 ans, c'est un fait vraiment insupportable pour nous laïcs surtout, parce que on peut rien faire, nous les laïcs. Nous ne pouvons qu'attendre ce que décident les évêques, les contacts, les patriarches, les papes. Et ça fait 1000 ans qu'ils n'arrivent pas. Ça fait vraiment beaucoup face à un commandement que Jésus a donné à son Église. Soyez un comme je suis un. Je ne sais pas comment on va continuer à supporter ça, cette scission qui est à la face du monde entier, une scission des chrétiens. Où est le témoignage de l'unité de la Trinité dans l'Église? Bon, il faut dire qu'il y avait quand même des efforts après le schisme de 1054. Il y avait surtout le Concile de Florence, 1439, et après encore l'Église gréco-catholique qui nous a rejoints officiellement 1596, avec son rite, avec sa manière de prier, et même des prêtres mariés, etc. Tout ça dans l'Église catholique aujourd'hui. Mais c'est très petit par rapport à la masse des orthodoxes de l'Est, aussi bien du côté Istanbul, enfin Constantinople, avec le patriarche là-bas, et du côté russe, avec le patriarche russe.
Mais là, justement, les laïcs peuvent jouer un rôle, parce que si on prend l'histoire du Concile de Florence, on se rend compte que l'empereur était l'élément moteur derrière les accords. Et en fait, ça n'a pas eu les conséquences qu'on souhaitait, parce que alors, c'est quand même une délégation, ils étaient venus à 300 évêques, ça a été très compliqué, enfin j'en vois ceux qui aiment ça, bah, l'histoire du Concile, mais c'est au retour vers Constantinople, évidemment, que là, il y a eu des difficultés pour l'acceptation, et ça n'est vraiment que lorsque Mahomet II a conquis Constantinople, alors là, il a, bon d'une part, il est entré à cheval dans Sainte-Sophie, mais il a imposer donc l'élection d'un nouveau patriarche et avec comme condition évidemment de rompre l'accord avec les latins. Et quand on regarde d'ailleurs les circonstances dans lesquelles la double excommunication a été prononcée, c'est des circonstances presque, enfin, ça serait risible si ça n'était pas tragique, hein. Ça ne repose en fait sur pas grand-chose. Et là, je me tourne vers vous, Olivier Lecomte, parce que, justement, dans votre livre « Qui cherches-tu ?», vous parlez de l'orthodoxie. Je venais de dire que les laïcs jouaient un certain rôle. D'ailleurs, il y a un cas très intéressant, c'est Nicolas II, avant la Révolution, le chef de la police de Saint-Pétersbourg a écrit des mémoires. Alors c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que la police tsariste avait extrêmement peu de moyens. Il avait 200 personnes à sa disposition. Mais évidemment, ces moyens étaient bien utilisés, en particulier grâce aux renseignements. Et le chef de la police à Pétersbourg s'est adressé à Nicolas II en lui disant, lui avait conscience de la situation difficile dans laquelle était la royauté russe. Il a dit, écoute, à l'empereur, si vous ne faites pas l'union avec Rome, vous tomberez. Alors c'est intéressant parce que un chef de la police, c'est quelqu'un non seulement de bien informé, mais qui a une connaissance intime de la manière dont fonctionne la société, dont elle peut fonctionner bien ou mal, etc. Et donc lui, qui était un orthodoxe, laïc orthodoxe, comme tout le monde, savait qu'il y avait quelque chose de, qu'il y a une dimension surnaturelle dans l'histoire. C'est ça qu'il y a dedans.
Alors, oui, parce que très sincèrement, Dieu confond dans une même affection les orthodoxes et les catholiques. Et le problème, c'est que justement, et on le voit quand beaucoup de gens en parlent, on regarde ce qui nous divise. Or, on devrait regarder ce qui nous unit. Et si on regarde bien ce qui nous unit, c'est un maximum de choses. Nous savons tous que Dieu est amour. Nous savons tous qu'il y aura une vie après la vie. Et nous devons nous préparer tous ensemble, et justement, catholiques et orthodoxes, à nous unir pour donner cette bonne parole à travers le monde. C'est ça la vraie solution, si on peut dire. Et si on regarde ce qui nous unit, et pas ce qui nous divise, vous savez que le diviseur c'est Satan, si on regarde ce qui nous unit, vous verrez qu'on ira dans le bon sens. Et quelque chose me dit qu'on va pas tarder à aller dans le bon sens, très sincèrement.
C'est un peu le message de Fatima, de toute façon. Ouais. C'est la... C'est la ouais. cette consécration de la Russie impliquera la conversion de la Russie, et la conversion de la Russie, c'est l'union des deux églises. Hein, je pense que
oui, elle a été officiellement faite finalement le 25 mars 2023 par le pape François, en union avec les évêques. Il a consulté les évêques avant, comme c'était préconisé à Fatima, et il a ajouté « et l'Ukraine ». Bon, ça c'était un peu modifié par lui, « la Russie et l'Ukraine à votre cœur immaculé ». Donc on peut dire, ça se rapproche le plus à ce que la, Sainte Vierge avait demandé à Fatima. Oui, j'ai moi-même vu trois patriarches à l'Est, hein, et on a parlé de tout ça. Ils étaient absolument étonnés que quelque chose comme la tradition survit dans l'Église catholique de l'Occident. Ils ne savaient pas que la tradition, qu'il y a des prêtres qui sont excommuniés à cause de leur fidélité à l'ancienne messe, etc. Ils ont dit donc, vous seriez prêts à mourir pour un point sur le i de la liturgie. J'ai dit absolument. Il a dit, montrez-moi qui est votre chef, je vais en parler au pape. Alors j'ai dit, c'est Monseigneur Lefebvre. Alors il a écrit L-E-F, il a marqué. Il a dit, je vais dire au pape, vous avez un cadavre dans le coffre. Alors, c'est très important pour les orthodoxes. Comment on traite l'ancienne liturgie chez nous? Alors, si déjà chez nous, on la traite comme ça, en excommunion, regardez, tout nouveau, hein, je parle de la semaine dernière, en excommunion de nouveau de ces éléments traditionnels, vous rendez compte l'image qu'on donne aux orthodoxes, eux qui adhèrent totalement à leur liturgie, que c'est leur manière de prier, de croire. Donc je crois, on s'y prend mal, il faudrait que la tradition négocie avec l'Église orthodoxe et pas le Vatican.
Alors c'est évident que l'état actuel de l'Église catholique ne favorise pas cette réunion, mais malgré tout, cette réunion a été prédite par la Vierge Fatima, donc elle se fera un jour. Je dois dire que il y a aujourd'hui une Russie. Le 25 décembre 1991, donc, Gorbatchev a démissionné de son poste de président de l'URSS, et à partir du 26 décembre 1991, donc il n'y a plus eu de... les États qui faisaient partie de la Fédération soviétique sont devenus des États indépendants. Et je dois dire qu'à cette époque, la première idée qui m'est venue à l'esprit, quand j'ai entendu ça, c'est maintenant, il y a une armée russe. Parce que... quand on regarde ce qui est promis à Fatima, la conversion de la Russie doit amener la paix dans le monde. Oui. Pour que la Russie puisse amener la paix dans le monde, ça suppose qu'elle soit en position militaire dominante. Alors évidemment, vous allez dire, c'est une lecture littéraliste des choses, etc. Mais enfin, malgré tout, le sens littéral, c'est le sens propre des mots. Et donc pour moi... pour amener la paix dans le monde, il faut être en capacité d'imposer la paix. De toute façon, on voit bien aujourd'hui que la paix ne se réalise pas par des banquets et des... c'est une question extrêmement compliquée parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas de la paix.
Il y a plusieurs manières d'amener la paix. Et la première, c'est peut-être commencer par convertir. Et donc, pour convertir, il faut parler justement, et là je reviens là-dessus, de ce qui nous unit. Parce que, quelle que soit la conversion de quelque église que ce soit, vous savez, Dieu, il va regarder la personne qui prie d'une même manière. On n'est pas dans une histoire d'excommunier, de pas excommunier, on est dans une histoire où il y a un cœur qui aime Dieu, qui se tourne vers Dieu, qui parle à Dieu. Et après, vous en avez deux, puis trois, puis il y a un témoignage. Et les gens, avec le temps, vont peut-être apprendre que la paix, c'est quelque chose de beau. L'amour, c'est quelque chose de beau. Et ça, c'est des choses qu'il faut que l'on apprenne. Et à partir du moment où les peuples, avec le temps, vont changer leur cœur, ils vont imposer aussi avec le temps aux autres de voir leur cœur autrement. Et à ce moment-là, la paix pourrait arriver. Alors bien sûr, aujourd'hui, tel qu'on voit les choses, ça a l'air d'être des jolies paroles bien mignonnes. Mais à réellement parler, le fond est très important. Et ensuite, bah, au niveau, j'allais dire, de la puissance, c'est vrai que quand on est puissant, on a son mot à dire. Pourquoi ? Parce que on est toujours dans une logique, et ça, on peut rien y faire, qui est une logique très simple, la loi du plus fort. Parce que depuis la nuit des temps, elle existe chez les animaux, elle existe aussi chez les plantes, si on regarde bien. Et à réellement parler, la loi du plus fort est toujours celle qui s'impose. Mais il y a le plus fort, j'allais dire, matériellement ou physiquement, mais après, il y a une autre force. Et celle-là, elle surplombera tout le monde parce que cette autre force fait appel à la conscience.
Ouais, la conscience, il me semble aussi que, et c'est ça un des aspects du message de Fatima, c'est qu'il y a une dimension surnaturelle dans l'histoire et que les en dernier ressort, ce ne sont pas les hommes qui, si puissants soient-ils, qui dirigent l'histoire, mais c'est Dieu. D'ailleurs, si on regarde ce qui s'est passé à Fatima, c'est quand même le 13 octobre. C'est quand même, ce miracle était quand même extraordinaire, puisque vous aviez 70 000 personnes qui ont vu le miracle. Ce miracle a été communiqué dans des journaux, y compris le Secolo, qui était un journal d'inspiration tout à fait anticléricale à l'époque, mais qui évidemment n'a pas pu faire autrement que de relater les faits. Et moi, ce qui me semble plus vraiment caractéristique d'un miracle dans cet événement, c'est le fait que il avait plu toute la nuit. Enfin, toute la veille. Donc les gens étaient venus à pied, ils étaient trempés, crottés, et instantanément, ils se sont retrouvés propres et secs. Donc ça, c'est le doigt de Dieu, c'est-à-dire quand le temps n'existe plus. Parce que nous, quelle que soit notre influence ou notre force, ben, nous sommes liés au temps, nous, tout ce que nous faisons, et dans le temps, et tout prend du temps, etc. Mais à partir du moment où c'est Dieu qui opère, à ce moment-là, il y a miracle, et le temps n'existe pas. C'est pour ça qu'on peut... le titre de cette émission, c'est « Lumière de l'espérance », c'est-à-dire que, justement, dans l'espérance chrétienne, il y a l'idée qu'à un moment donné, les choses se font sans qu'il y ait besoin de temps.
Alors Dieu nous donne des signes, mais tous les signes qu'il nous donne, malheureusement, c'est comme quand il y avait le Christ, il pouvait guérir quelqu'un, mais les pharisiens, ben, ils n'avaient pas envie de voir ce qui était tellement évident. Et Fatima, il s'est un peu passé la même chose aussi. C'était extrêmement évident, puisque tout le monde l'a vu. Et ça a été rapporté à travers le monde. Mais des gens qui mettent encore en doute... même l'existence de Dieu en soi.
Oui, mais
alors, ce qui est complètement incroyable quand on réfléchit bien.
On croit ce qu'on souhaite. Hein. Donc évidemment, ceux qui mettent en doute, c'est parce qu'ils ont un intérêt en doute. Alors, et il y a aussi des forces contraires. Et je vois un auditeur, d'ailleurs, dit, n'y a-t-il pas quelque part dans la politique contemporaine un volet satanique qui aurait pour but de diviser les nations ? Quand on voit les ce qui se passe dans les pays en conflit, chez les responsables. Donc la paix ne sera pas si facile que ça à établir.
Oui, mais justement, c'est là que Fatima est un immense signe pour nous. C'est la Sainte Vierge qui commence à intervenir. Et ça, c'est vraiment une espérance. Parce qu'avec tous nos agissements humains, on voit bien qu'on ne va pas loin. On donne plutôt, nous, des petits signes. Mais Dieu, il agit. Et si la Sainte Vierge veut quelque chose, croyez-moi, là, on a du bon côté et on a un bon avenir, je pense.
Alors je m'adresse à vous, justement, Vitaly Orlik, puisque vous avez créé l'Union des Nations de l'Europe chrétienne. Un auditeur dit, ne pourrait-on pas créer une association d'amitié franco-russe qui viserait à rassembler les points de convergence entre la Russie et la France éternelle? Personnellement, j'y participerai. Donc, est-ce que, justement, puisque on disait, c'est les laïcs qui font avancer les choses. Alors, l'auditeur ne se limite pas à la dimension religieuse de la question, puisqu'il parle d'associations d'amitié franco-russe. Alors, je pense qu'il y a déjà des associations franco-russes.
mais il y a des franco-russes, mais c'est plutôt un peu diplomatique et de bon genre, des cocktails, des choses, et aussi des rencontres quand même. Hein. Mais ce n'est pas une véritable volonté de vouloir bouger les choses. Je pense que ce pèlerinage, j'en profite, si vous permettez, de vraiment remercier tout cœur nos pèlerins qui ont tenu le coup pendant 5 ans, en sacrifiant chaque année 2 mois de leur vie à ce pèlerinage, et cela avec des obstacles majeurs. Ça a commencé tout de suite avec le Covid, on a dû reporter 1 an le départ, tout au début déjà, et après, en plein Covid, en plein confinement, ils sont partis. Et rien ne les a arrêtés aux frontières. Ils disent qu'il n'y avait personne parce qu'ils étaient tous confinés. Ils n'ont vu personne, ils ont traversé les frontières en pèlerinage. Et ensuite, les tempêtes, les mauvais temps en Scandinavie, c'était incroyable. Et puis, les maladies, et puis les lâchetés. Tout le monde disait « vous n'arriverez jamais, mais c'est... » C'est pour rigoler, vous n'arriverez jamais en Russie, etc. Mais tout le monde, non ? Il y avait très peu de gens. Regardez la presse catholique française, personne n'a parlé de ce pèlerinage. Maintenant, ça m'intéresse. Ah, il y a M. Poutine, alors là, tout le monde est intéressé.
Ah, mais... Je ferai remarquer quand même que, à ce micro, vous êtes intervenu là, oui. 2 fois.
Ah non, Radio Courtoisie était formidable, avec les interviews sur la route, etc., qu'on a fait, même avec l'abbé Laurence, plusieurs fois. Alors, je remercie vraiment de tout cœur tous ces pèlerins, tous ces coopérateurs qu'on avait aussi dans tous les domaines, et aussi les pèlerins spirituels qui se sont joints à ce pèlerinage par leurs prières quotidiennes pour nous accompagner.
Oui, écoutez, moi aussi, je remercie tous ces pèlerins et toutes ces personnes
tellement important.
De ces choses quand même extraordinaires. Enfin, 7000 km à pied avec un certain nombre de contrées. Alors nous allons maintenant faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons dans quelques minutes.
1 euro par auditeur, 1 euro par mois. 1 euro peut nous aider, peut nous sauver. L'été est la période la plus difficile de l'année, mais Radio Courtoisie reste fidèlement à vos côtés chaque jour, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour nous sauver et préserver notre liberté d'expression qui vous est chère, ne nous abandonnez pas maintenant. Avec 1 euro, pendant l'été, donnez-nous les moyens de continuer à parler. Faites un don sur soutenir.rc.fr ou envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016, Paris.
Voilà, bonjour chers herbositeurs. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Courtoisie et vous écoutez le journal dominical Lumière de l'Espérance, dirigé aujourd'hui par Dominique Dassault, avec comme invité Olivier Lecomte, ancien fonctionnaire territorial pour l'aide sociale, en particulier aux jeunes et aux personnes âgées, et auteur du livre « Qui cherches-tu ?», hein, qui est dans ce studio, et nous devions avoir en ligne le préfacier de ce livre, le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme, qui devait nous rejoindre en Zoom, mais apparemment on n'arrive pas à le joindre. Et nous avions, dans la première partie de cette émission, Winfried Hurveling, président de l'UNEC, Union des Nations de l'Europe Chrétienne, qui nous a rappelé que le pèlerinage à pied avec une statue pèlerine de Fatima à Moscou, qui s'est terminée l'année dernière, nous avons rendu compte deux fois dans cette émission, a eu une conséquence inattendue, c'est-à-dire que cette Vierge pèlerine a été remise à Vladimir Poutine et figure désormais au Kremlin. Elle est dans la salle réservée aux cadeaux faits à Poutine, qui avait, lui, remis une médaille de mère héroïne, donc pour les familles nombreuses, à un Français qui habite Moscou, Fabrice Sorlin. Et la médaille a été remise à Isabelle Sorlin, qui est évidemment a une famille exemplaire, puisqu'il a 10 enfants. Et dans le cadre de cette cérémonie, les Sorlins ont remis la médaille, la statue de Fatima à Vladimir Poutine. Alors, nous allons, dans cette émission, dans le cadre de ce livre « Qui cherches-tu ?». Alors d'abord, une première question. Sur le titre du livre, on voit « Qui cherches-tu ?» pour le français moyen que je suis, c'est une interrogation et qui est suivie par un point d'interrogation. Or, sur la couverture du livre, on voit « Qui cherches-tu ?» trois petits points. Alors, quel est le sens de ces trois petits points?
Eh bien, parce que c'est un cheminement à faire. Donc, les trois petits points symbolisent un peu ce cheminement. Qui cherches-tu? Alors c'est un titre, je dirais même, j'aurais pu même le mettre en deux parties, puisque après la scène, au moment où on vient chercher le Christ, le Christ dit « Qui cherchez-vous ?» Et puis, le jour de sa résurrection, quand il voit Marie-Madeleine, il lui dit « Qui cherches-tu ?» Et justement, toute la question est là, puisque on se rend compte qu'il y a beaucoup de messages dedans. Parce que le « qui cherches-tu ?», c'est une question qu'il pose alors qu'il est bien devant elle, mais il a déjà bientôt rejoint le Père. Pas encore tout à fait, mais il est en route, je vais dire, pour ça. Et donc, il est en soi la porte ouverte à la vie après la vie, qui est quelque chose d'extraordinaire. Mais il faudra le vivre pour s'en rendre compte. Et seules les personnes qui reconnaissent Jésus le vivront, contrairement à ce qu'on dit souvent, mais lui, il l'a dit en phrase réelle quand il y a eu la résurrection de Lazare. Et oui, ceux qui croient à Dieu auront vraiment une porte ouverte. Ceux qui ne croient pas, Dieu ne leur imposera pas.
Alors je veux dire que ce livre est quand même assez particulier, parce que vous racontez votre itinéraire personnel, vous racontez évidemment un pèlerinage que vous avez fait vous-même dans un grand nombre de lieux saints, de lieux d'apparition ou de basiliques particulières en France. Et d'une certaine façon, après avoir lu ce livre, on a l'impression de vous connaître vous mieux qu'on ne se connaît soi-même. C'est-à-dire que vous exposez vos raisonnements, votre psychisme, ce qui vous arrive, d'une manière très, telle que vous l'avez vécu, alors que d'une certaine façon, quand ce qu'on vit, quand on vit quelque chose soi-même, on n'est pas aussi impliqué.
C'est une règle extraordinaire.
C'est un livre assez inhabituel, ces messages que vous recevez et que vous mettez en application, donc qui donnent une dimension, je dirais, presque surnaturelle au livre. Et en même temps, il y a un certain nombre d'anecdotes, parce que vous êtes quelqu'un de quotidiennement impliqué dans la vie de la société, comme je l'ai rappelé, fonctionnaire territorial. Et on voit d'ailleurs un certain nombre d'anecdotes. Il y a une anecdote qui m'a particulièrement marqué, c'est... Alors, à un moment donné, vous rencontrez, c'est dans un hôtel, et le fils de la tenancière de l'hôtel,
oui,
est un jeune.
Très difficile, ça.
Alors, un jeune d'une. Un adolescent, enfin, je sais pas, peut-être.
Il avait 15 ans, 16 ans.
Donc, très jeune. Mais est-ce qu'on peut dire que c'était un salafiste? Enfin, ouais, disons, un musulman vraiment convaincu.
C'est un jeune. Il y a eu les attentats de Nice quelques jours avant, parce que c'est il y a exactement 10 ans. Et il y a eu les attentats de Nice il y a 10 ans, on a fêté le 10e anniversaire.
Oui.
Et ça m'a profondément marqué. Et à la suite de cet attentat, j'étais en train de faire un pèlerinage, et d'abord, au moment quand c'est arrivé, j'étais à Cotignac, et quand j'étais à Cotignac, c'est le bon Dieu qui a pris la main. Sur le pèlerinage, c'est-à-dire le pèlerinage a changé. Je me suis rendu compte qu'il me faisait rencontrer des gens. Donc on va parler de ce jeune, mais il faut bien avoir à l'esprit que la clé de l'amour, et il me l'a vraiment dit, c'est le partage. Et le partage, on le vit. Alors il est vécu en église, mais il faut le vivre aussi au quotidien, tout le temps. Parce que le partage, à partir du moment où je parle avec vous, eh bien, on partage, on s'intéresse à l'autre, et finalement, où on lui donne des informations, mais c'est aussi un acte d'amour. C'est une personne qui est en fin de vie, parce que, bien sûr, j'étais proche de certaines personnes comme ça, et vous êtes à côté, et vous partagez, et cette personne, elle change sa façon de voir les choses. Parce qu'elle se dit qu'elle est aimée. Et en plus, vous l'écoutez. Et elle vous écoute. Et finalement, c'est très important parce que son cœur change aussi. Sa façon de voir les choses change. Parce qu'elle a envie de continuer ce partage. Ce partage, ça lui plaît. Elle va attendre le lendemain où quelqu'un d'autre, sa famille, des amis vont venir la voir. Et c'est extrêmement important de pouvoir avoir ces moments de partage. Et le partage, il se fait aussi au quotidien. Et dans ce pèlerinage, je l'ai vécu. À l'époque, j'en avais pas vraiment conscience. Et je me suis retrouvé avec un jeune qui approuvait vraiment les attentats, qui trouvait ça très bien, que de toute façon, les Français ne méritaient que ça. Enfin, il a eu un langage comme ça. Je l'ai regardé, j'ai commencé par l'écouter. Je l'ai écouté. Et puis, je lui ai demandé ce que son cœur vraiment pensait. Je lui ai posé un certain nombre de questions. J'ai pas beaucoup parlé avec lui, mais un peu. Et à la fin, parce que comme je l'avais écouté, j'avais pas été négatif avec lui, il s'attendait certainement à autre chose. Et à la fin, ben, j'avais les évangiles avec moi, je lui ai donné. Et ben, il les a pas refusés, il est parti avec. Et je pense même aujourd'hui qu'il les a lus, pour avoir un peu une idée. Parce que il se rendait pas forcément compte des choses. Et puis, alors pour en revenir à Cotignac, parce que Cotignac a été un tournant, mais dans l'histoire de France, c'est toujours un tournant aussi, Cotignac. Parce que c'est là où il y a la révélation pour Louis XIII, justement, pour la naissance de son fils. C'est-à-dire qu'Autignac, c'est un lieu qui est tout sauf anodin. Et puis, c'est aussi le lieu où Saint Joseph est venu. C'est le seul lieu, peut-être il y en a un autre, puisque les gens n'ont pas rencontré Joseph. Mais il s'est passé quelque chose dans une église, bon, qui était un peu curieux. C'est pas du tout en France, hein, c'est même pas en Europe, mais c'est en Amérique. Mais à réellement parler, c'est un lieu très particulier, Cotignac, parce que à Cotignac, il m'a aussi demandé de doubler mon pèlerinage. C'est vraiment quelque chose de très...
De doubler, c'est-à-dire ?
Ben, c'est-à-dire, je faisais un pèlerinage, et il m'a demandé de faire un pèlerinage dans le pèlerinage. Et pour, justement, pour la France. C'est-à-dire, et quand on dit pour la France, eh bien, on commence à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que la France ? Et surtout, qu'est-ce que cette France éternelle que souhaite le bon Dieu ? Parce que c'est ça, la vraie question. Alors, on va se pencher sur quoi ? Sur nos valeurs éternelles. Est-ce qu'on a des valeurs éternelles ? Bien sûr, puisque nos racines nous informent de ces valeurs éternelles, mais aussi notre histoire. Par exemple, si je dis que nos valeurs éternelles, c'est la paix, c'est la justice et l'amour. Ben, si on réfléchit un peu, on peut le prendre il y a très longtemps, mais on peut le prendre même à l'époque des Gaulois, mais on peut avoir aussi comme symbole Saint-Louis. On voit bien où il rendait la justice, la paix malheureusement, il a été obligé de partir en croisade parce qu'il y a des chrétiens qui étaient exterminés en Terre Sainte, il faut dire les choses comme elles sont. Et puis l'amour, parce que les hôtels-dieux, c'est bien lui qui les a fait créer au départ. C'est-à-dire qu'on est, dans ces valeurs. Et ces valeurs, bien, il faut les réactualiser.
Alors, justement, vous parliez de Saint-Louis, et vous êtes clairement favorable à un gouvernement monarchique, enfin à la restauration d'un roi en France. Et ça m'a... en voyant ça dans votre livre... ça m'a fait penser à un récent sondage qu'apparemment fait par Valeurs Actuelles, enfin dans la population, et à la surprise générale, en fait, beaucoup de gens, une majorité de Français souhaitent le retour à un gouvernement fort. Enfin, on sent des gens désabusés par le système de la démocratie représentative.
C'est à réinventer. On parlait de République aussi sous Louis XIV, parce que
oui,
ça choquait
bien
pas.
Bien sûr,
parce que la République, c'est... alors public, hein, le mot public, il va bien. Alors on peut parler du bien public ou même du bien commun, et puis on peut parler aussi du fait que ça intéresse le peuple, c'est pour le bien du peuple.
Oui, bien sûr.
Donc, la République, elle peut être paradoxalement monarchique, elle peut être... aristocratique. Alors, je ne parle pas de la noblesse, l'aristocratie, c'est la bourgeoisie aujourd'hui, et ainsi de suite. Elle peut être beaucoup de choses. Mais tout ça, il faut que ça se réinvente. On ne fera pas l'avenir avec le passé. On peut apprendre nos racines dans le passé, on peut transmettre nos valeurs, ce qui est très important, il faut les garder. Et c'est justement parce qu'elles nous enracinent que l'on va pouvoir évoluer. C'est-à-dire que si quelque chose d'autre arrive aujourd'hui, ce sera quelque chose qui n'a pas encore existé. Et paradoxalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient changer. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'autorité de justice, peut-être que quelqu'un pourrait incarner cette autorité. Et à ce moment-là, on se retrouverait avec une autre forme de système. Puisque si une personne incarne cette autorité, il va y avoir autre chose que des compromis, des copinages, parfois de la corruption. Ça ne pourra pas marcher.
Oui, Père, vous parlez de France éternelle. Et là, justement, quelque chose qui me frappe, c'est aujourd'hui, on a une sorte de désaffection pour les dirigeants. Il y a des Quand le dirigeant a dirigé pendant très longtemps, il se fait comme une sorte de lien entre lui et le peuple, quelles que soient par ailleurs ses qualités personnelles, etc. Enfin, je rappelle que lorsque Staline est mort, il y a eu un défilé populaire, c'était le petit père du peuple qui était mort, etc. Alors évidemment, il avait d'une certaine façon organisé la résistance pendant la guerre, etc. Mais c'était pas un personnage recommandable, c'est quelqu'un qui a, d'ailleurs comme le dit Poutine, enfin Poutine est très sévère pour la période bolchevique de la Russie, mais ce que je veux dire, c'est que beaucoup de choses sont pardonnées à celui qui est là depuis longtemps, et une anecdote qui m'a frappé à ce sujet, ça concerne Louis XV. Alors, il y a un diplomate français, Paul Del Perugia, qui avait fait une biographie de Louis XV, et c'était l'époque où Giscard d'Estaing était président de la République. Et Giscard d'Estaing passe pour descendre par la gauche de Louis XV. Donc, un jour, Del Perugia avait pris sa retraite dans l'ouest de la France, le téléphone sonne, et l'Élysée lui demandait de venir, s'il voulait venir parler avec le président. Alors, bon, Paul Del Perugia n'avait pas de sympathie particulière, si on peut dire, pour Giscard d'Estaing, mais c'est toujours intéressant d'aller voir les grands hommes, donc ils prennent rendez-vous, il est reçu. Giscard avait effectivement lu le livre, pour pouvoir lui poser les questions, mais la question principale qui le turlupinait, c'était la suivante. Monsieur Del Perugia, comment pouvez-vous me dire comment Louis XV a pu être aussi aimé des Français? C'était la question qu'un président se posait. Comment, justement, avoir une dimension affective dans la relation avec le peuple? Et une relation réciproque, c'est-à-dire du peuple vers le président, en l'occurrence. Alors, Del Perugia, évidemment, n'y est pas allé par quatre chemins. Il lui a dit tout de suite, Monsieur le Président, vous n'y arriverez jamais. Vous n'y arriverez jamais parce que Louis XV a régné 50 ans. Et c'est vrai que moi, j'ai le souvenir de la mort de Baudouin en Belgique. Il y a eu, c'est pareil comme pour Staline, peut-être plus que pour Staline d'ailleurs, il y a un plus juste titre, mais un défilé qui a duré très 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 longtemps de gens qui tenaient à venir se recueillir devant sa dépouille ou bénir sa dépouille. Donc, donc vous parliez d'amour, mais justement, il y a une dimension affective dans la relation entre le peuple et le souverain qui aujourd'hui s'est perdue.
Oui, parce que le souverain, quand on le connaît 5 ans, on y passe, et puis même 10 ans. Bon. Par contre, quand ça dure plusieurs années, on peut regarder aussi la reine d'Angleterre, le souverain devient un père. Et puis, j'allais dire, c'est réciproque. C'est-à-dire que le souverain, quand il est aimé, c'est aussi un souverain qui aime son peuple. Ça va dans les deux sens. C'est toujours le problème du partage dont je parlais. C'est le souverain, il est aimé parce qu'il aime. Et si jamais un jour on avait un souverain en France, la première chose... c'est qu'il faut regarder quelqu'un, et là on sait qu'il peut, il peut être aimé et il peut vraiment avancer, parce que s'il aime la France et les Français, c'est-à-dire pas comme certaines personnes aujourd'hui qui la méprisent ou la haïssent, hein, il faut dire les choses, hein, sans nommer les gens, hein, mais si on aime la France, si on aime les Français vous aimeront. Ça, il n'y a aucun problème de ce côté-là.
Alors là, pour aller dans votre sens, je me rends compte en vous écoutant que dans la revue du CEP, donc il y a une rubrique société, et en exergue de cette rubrique, il y a une citation du père Jean-Léon Le Prévôt, donc qui est un des fondateurs un petit peu de la doctrine sociale de l'Église au XIXe siècle, et il dit la chose suivante, « Dieu a voulu qu'on ne puisse faire aucun bien aux hommes qu'en les aimant. »
C'est ça.
Et pour moi, cette phrase est la condamnation de l'élitisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un peu partout des élites qui, justement, sont là parce qu'ils ont réussi des concours, parce qu'ils ils ont des mérites personnels, etc. donc se sentent aptes à diriger, à décider, etc. Mais n'ont pas justement ce regard d'amour vis-à-vis des gens. Ils sont même, pour beaucoup, persuadés de savoir beaucoup mieux que les gens ce qui est bon pour eux.
Justement.
Pour moi, c'est même la définition de l'élitisme.
C'est ça.
Et ça, évidemment, cette dimension a été perdue dans les sociétés actuelles, et c'est ça que vous souhaitez qu'on retrouve.
Ben, moi, je souhaite qu'il y ait des choses qui disparaissent, qu'il y ait des choses qui arrivent. Alors, ce qui disparaît, ben, c'est les compromissions, la corruption, parce que la corruption, paradoxalement, quand il y a une élite, ils se rendent service les uns les autres. S'ils se rendent service, ils favorisent ceux qui sont, je vais dire, de leur côté, ou ceux qui peuvent leur rendre d'autres services. Et ça, quelque part, on peut dire, c'est une des définitions de la corruption. Et malheureusement, les sociétés actuellement sont souvent très corrompues quand il y a une oligarchie. Moi, je regarde un vote qui a eu lieu hier, et je me rends compte que on fait passer un texte alors qu'on sait que 85% des Français sont contre. Est-ce qu'on est encore dans une démocratie? Oui. Est-ce que les Français peuvent aimer ces gens?
Oui,
et après, on va se poser la question, est-ce qu'ils aiment est-ce qu'ils peuvent aimer ces gens? Et où vont-ils aller après avec ça? Parce que si on regarde bien, justement, c'est l'histoire du traité de Lisbonne, mais il n'y a pas que le traité de Lisbonne. Parce que on se rend compte très régulièrement qu'on est tout le temps en train d'essayer de retourner l'esprit des gens pour qu'ils aillent dans le sens que nos oligarques souhaitent, ou nos gestionnaires gouvernementaux, on va dire. Mais malheureusement, on veut qu'ils aillent dans ce sens, les Français, donc on va leur retourner l'esprit pour essayer de faire en sorte qu'ils soient d'accord, mais de toute façon, qu'ils soient d'accord ou pas, ils en ont rien à faire, parce que beaucoup de gens, je vais pas dire les haïssent, il y en a quelques-uns qui les haïssent, mais beaucoup de gens ont du mépris pour les Français, et donc pour la France. Parce que la France, elle est une et elle est indivisible. Et on va s'en rendre compte, mais eux, leur but, c'est de la diviser, parce que en la divisant, certains se font élire, et ça permet... Mais c'est un peu le système qui veut ça aussi. Quand on parle de droite, de gauche, de centre, d'extrême, etc., c'est diviseur, ça, si on réfléchit bien.
Oui, effectivement. C'est-à-dire, moi, une chose qui me frappe, c'est que dans le fonctionnement du monde politique actuel, dans toutes les décisions qui sont prises, systématiquement, il y a le mobile et le motif qui ne sont pas la même chose. C'est-à-dire que le motif, c'est ce qui est mis en avant pour justifier une loi, pour justifier un règlement, pour justifier une mesure, disons, limitant des libertés, par exemple.
Exactement.
Donc on met en avant des motifs, ou même l'histoire pour l'euthanasie, on met en avant des motifs tout à fait humanistes. Mais les mobiles ne sont pas là. Vous prenez les guerres récentes, hein, si vous voulez, les mobiles, c'est-à-dire les vraies raisons qui déclenchent les choses, ne sont pas les motifs mis en avant. Donc, si vous voulez, quand un mode de gouvernement systématiquement différencie mobile et motif, c'est-à-dire systématiquement ment au peuple...
Bah, c'est des bonimenteurs.
Voilà, oui, mais si vous voulez, il y a le bonimenteur qui est un amuseur public, mais il y a le bonimenteur qui est en mission pour faire passer des décisions prises ailleurs. C'est quelque chose qui est presque insupportable, si vous voulez, d'être dirigé par des gens qui non seulement ne nous aiment pas, mais en plus nous racontent des salades. Et dont on sait qu'ils racontent des salades, et eux savent qu'on sait qu'ils racontent des salades, jusqu'à un certain point.
C'est pour ça qu'on peut en revenir à la doctrine sociale de l'Église, avec en particulier la subsidiarité, c'est-à-dire la démocratie au plus proche de, j'allais dire, des habitants.
Mais alors, vous parlez, dans le titre de cette émission, on a parlé de France éternelle. Est-ce que vous croyez vraiment que la France peut redevenir ce qu'elle devrait être?
Ah, je pense que la France peut devenir encore plus grande. Ouais, très sincèrement.
Expliquez-nous
ça. D'abord, on est le deuxième ou le premier pays en surface maritime. Donc déjà, on n'est pas n'importe quoi et n'importe qui. Ensuite...
Mais on est en train de lâcher les Mayotte et les Comores, justement.
Non, mais ça, c'est justement les diviseurs actuels qui font ça. Qui n'ont que ça. C'est la déconstruction totale de notre pays. Elle est arrivée... elle existe depuis de très nombreuses années, mais le wokisme est fait pour diviser, donc déconstruire. D'ailleurs, on n'en parle plus, hein, du wokisme. Pourtant, il est bien, bien réel et bien présent. Les dirigeants actuels veulent faire disparaître ce pays. D'ailleurs, c'est pas difficile, ils sont très simples, puisque quand ils ne parlent que du mot république. Oui, mais on parle des valeurs de la République, on parle de la République ci, la République ça. Le mot France a déjà disparu. Et quand on parle du mot République, le jour où on sera une République européenne, ben on continuera à parler des valeurs de la République comme si la France n'avait jamais existé.
Alors, vous êtes non pour la restauration de la France?
Non, je suis pour la restauration de la France, c'est ça.
Je n'ai pas dit la restauration de l'ancien régime tel qu'il pouvait Exactement. Exister, évidemment, c'est une autre époque, il faut... Mais est-ce que vous... Enfin, pour vous, c'est effectivement possible?
Ah, totalement. Ça pourrait même nous surprendre un jour. Parce que... moi, vous savez, alors je vais le comparer à quelque chose, mais ce sera forcément pas la même chose, parce que l'histoire se répète pas. Mais quand De Gaulle, le 18 juin, a fait son discours, personne savait qu'il existait. Alors, c'est vrai qu'il existait déjà un peu, hein, puisque il était...
Il avait été dans le gouvernement.
Voilà, il avait entre autres été dans le gouvernement. On avait déjà parlé de lui un peu avant. Mais à réellement parler, ça sort et ça sort très vite. Ça sort... en 3-4 mois, ça sort. D'ailleurs, il ne faut pas que ça sorte trop longtemps avant, parce que quand quelqu'un arrive, il faut un peu cette espèce d'effet de sidération. Parce que sinon, ça ne peut pas marcher. De Gaulle, c'est un effet de sidération, parce que tout le monde s'est rangé derrière lui, enfin tout le monde, beaucoup de gens se sont rangés derrière lui et sont entrés en résistance. Ou ils étaient déjà en résistance, et ils ont trouvé une personne qui pouvait les unir, justement. Parce que c'est parce qu'on est unis que l'on peut faire quelque chose. Mais ça passe toujours par ça. C'est-à-dire que, oui, un jour, quelqu'un va se lever, et on verra bien, et on attend de voir, d'ailleurs, je vais dire ça plutôt comme ça, et les Français vont se dire, ah ben lui, pourquoi pas.
Oui, parce qu'il faut, ça c'est le problème des Gaulois, c'est la division, indépendamment de tous les autres aspects qui concernent tous les peuples. Il y a une difficulté spécifique à surmonter les divisions chez les Gaulois, et évidemment, c'est la qualité du personnage qui est au sommet de la pyramide qui peut faire cesser les divisions. C'est
complètement.
Ouais. Et donc, vous pensez que Ça
paraîtra évident à tout le monde le jour où quelqu'un se présentera.
Parce que ce
sera une évidence.
Gouverner, c'est...
De toute façon, il n'y a qu'un roi en France, c'est le Christ. Voilà. Pour dire les choses. À la base. Après, c'est le Christ. Pourquoi? Parce que c'est... dans nos racines, c'est ces valeurs-là qui... Parce qu'il est parole. Hein. Il est parole incarnée. Donc, c'est ces valeurs-là qui sont transmises. C'est-à-dire des valeurs d'amour, de paix, et c'est ça notre royaume. Et de justice, bien sûr. C'est-à-dire ces valeurs dont je parlais tout à l'heure de Saint-Louis, mais c'est aussi des valeurs que beaucoup de Français aimeraient retrouver aujourd'hui. Un peu de justice, ça pourrait pas faire de mal. La paix, ben, la sécurité intérieure, ça pourrait être pas mal aussi. Puis la sécurité extérieure, ben, faudra peut-être trouver des solutions pour pouvoir vivre mieux, plus agréablement, et finalement, la vraie solution, ce serait de faire en sorte que la sécurité soit telle qu'on puisse aller vers le bonheur.
Ça fait penser à une formule. Enfin, tout le monde sait ce qu'il faudrait faire. Enfin, je parle dans le monde politique. Le problème, c'est que personne ne sait comment être réélu si on le fait. Donc, il y a effectivement, avec le système de la démocratie représentative sur une base électorale, avec surtout le suffrage universel, il y a une difficulté majeure pour le pouvoir à faire ce qui doit être fait, dont les effets positifs nécessairement demandent du temps.
Oui, mais c'est un problème d'orgueil. C'est un orgueil. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens orgueilleux qu'ils veulent le pouvoir et donc ils attaqueront systématiquement les autres. Regardez les gens qui se présentent à la présidentielle, enfin qui disent qu'ils se présentent et qui sont toujours en train de se dénigrer les uns les autres. Et souvent du même bord, ce qui est le plus amusant d'ailleurs dans la première partie de la présidentielle. Ils s'entretuent, ils jouent au duel.
Remarquez, ce n'est pas une vieille question parce que je profite pour dire que les derniers cahiers Saint-Raphaël sont sortis et c'est sur Hippocrate, le thème général du cahier, donc la Hippocrate, le serment d'Hippocrate, évidemment. Et il y a un article de Jacqueline de Remilly sur Hippocrate et Thucydide, autrement dit sur le fonctionnement de la politique en Grèce et en particulier le fait qu'Alcibiade, à un moment donné, ait convaincu les Grecs, enfin les Athéniens, pour leur malheur, de partir en Sicile, alors que ça n'était pas dans leur... C'était de l'impérialisme, finalement. Ça a été catastrophique, et Athènes a perdu l'hégémonie qu'elle avait, etc. Mais ce que fait remarquer Jacqueline Dormilly, dans ce cahier Saint-Raphaël, donc, qui est vraiment un très bon numéro, c'est que il y a deux façons d'être au gouvernement. Enfin, il y a deux types d'hommes, ceux qui veulent le bien commun et ceux qui veulent la carrière personnelle, ce qui était évidemment le cas d'Alcibiade. Écoutez, nous arrivons maintenant vers la fin de cette émission. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Qui cherches-tu » aux éditions Godefroy de Bouillon, 25 €. Qui est un livre donc préfacé par le prince Charles Emmanuel de Bourbon-Parme, avec également un mot d'introduction de Monseigneur Ray.
C'est ça.
Donc, puisque vous êtes du Midi, bien sûr. Et je rappelle donc, le dernier numéro des cahiers Saint-Raphaël. J'annonce le prochain colloque du CEP à Orsay, donc les 10 et 11 octobre 2026. Vous aurez le programme et les mots d'inscription sur le site du CEP, le-cep.org. Et donc je rappelle comme adresse utile, pour s'abonner au cahier Saint-Raphaël, donc revue de la CIM, Association catholique des infirmières et médecins, il faut s'adresser à ACIM, ACIM, 2 route d'Équien, 62360 Saint-Étienne-au-Mont. Et pour s'abonner à la revue du CEP, le CEP, il faut envoyer un chèque de 45 € au CEP SIDEX 811, 16 rue d'Auxerre, 89460 Bazarne, ou tout simplement aller sur le site le-cep.org. Un grand merci, Olivier Lecomte, pour être venu de votre Provence jusqu'à Paris. Enfin, bon, le train, évidemment, facilite. C'est pas comme l'époque de Cotignac où on allait à pied et ça prenait évidemment beaucoup plus de temps. Mais le mérite n'était pas le même non plus. Enfin, merci quand même d'être venu à cette émission.
Merci bien.
Et je vous dis à tous, rendez-vous dans un mois. Le 16 août et bon dimanche à tous.
Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Dominique Tasso, diffusé en direct sur Radio Courtoisie, dimanche 19 juillet 2026 de midi à 13h30 et réalisé par Aline. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port, 9 euros. 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.